On jase en toute simplicité de dépression avec Valérie Charret du Bec. Bon podcast.
Oui, allô?
Allô, Valérie.
Allô?
On sait que de nos jours, la dépression, les problèmes psychologiques, la maladie mentale fait partie, on dirait, de la vie moderne. Puis, je ne sais pas si c'est particulièrement au niveau du monde des communications, mais on dirait qu'il y en a beaucoup. Je vis dans ce monde-là, je suis passé par là, je connais des collègues qui passent par là aussi. C'est un phénomène...
Je dirais pas que c'est un facteur qui est propre à notre industrie. Évidemment, c'est une problématique qui est très présente dans notre industrie, mais pour l'avoir un peu vécu avec Belle Cause pour la Cause, on voyait que les gens sortent un peu... Pour briser les tabous dans toutes les industries. Mais c'est sûr que quand on s'attarde vraiment au domaine de communication marketing, plus spécifiquement dans l'industrie de la publicité, on est dans une industrie qui marche sous pression, qui a un niveau de compétition excessivement élevé et qui a une sécurité d'emploi qui est très faible. Du 1er janvier 2015 au 31 novembre 2015, j'ai enregistré près de 800 heures d'appels. Et on est suivi de près par l'Ontario avec 273 heures.
C'est beaucoup moins.
Il y a une marge, là.
Ben ouais.
Il y a une marge immense.
Comment t'expliques ça?
J'aimerais dire que oui, notre campagne de notoriété, la com, c'est pas toujours comique, a fait son chemin. Par contre, il y a aussi, des raisons qui n'ont absolument aucun rapport avec notre notoriété au Québec. Qui est simplement le fait que les Québécois, on a un type de personnalité qui diffère du Canada anglais. On a cette ouverture d'esprit, malgré le fait que c'est un sujet qui est toujours tabou. Je pense qu'il y a une acceptation de plus en plus grande ici, probablement dû au fait qu'on est émotif. Puis je le vois juste en pub, là, tu sais, une campagne ontarienne versus une campagne québécoise.
Ouais.
On est bien fort, sa petite corde sensible.
Oui, oui, on est latin.
J'aime l'aspect qu'on est des early birds, dans le sens où, quand on regarde les stats et tout ça, moi j'ai un très très haut niveau d'appel. Mais les gens m'appellent parce que ça commence à aller mal, là, puis là je panique, puis là, je sais pas trop quoi faire, là, puis là on peut essayer de rectifier la situation. Au Canada anglais, on appelle parce qu'on a la corde au cou.
Fait que ce qu'il y a d'intéressant dans cette démarche-là, étant donné la variété de services que vous offrez, ça peut permettre d'identifier des problèmes que vit une personne qui pourrait dégénérer, puis qu'éventuellement, s'il les avait pas réglés, il vous appellerait carrément pour un problème de burn-out. Je pense, entre autres, tantôt, tu parlais de la famille.
Oui.
Oui, le deuil d'un enfant, d'un parent, c'est sûr que ça l'affecte. Puis en communication, ben, t'sais, particulièrement, je sais pas, des créatifs... t'es pas dans le mode pour écrire, t'écris pas, tu pars ta job éventuellement, mais aussi la pression, les merges, l'emploi précaire, tout ça, c'est des facteurs que l'ensemble des industries vivent, mais
oui.
Entre autres, je sais qu'en communication, c'est un univers où il y a beaucoup de jeunes personnes qui commencent là, puis éventuellement, ils se marient, mais ils ont un enfant, puis à partir du moment où t'embarques dans une dynamique de performance au travail, puis de performance à la maison avec le bébé, puis de performance avec le mari ou la conjointe, c'est effectivement toutes des bonnes façons de tomber qui sont pas directement peut-être associées au travail. Mais l'ensemble de ces facteurs-là fait en sorte que quelqu'un peut devenir très fragile puis que ça peut empirer.
Et au final, ce qui va finir par écoper, généralement, c'est le travail. Parce qu'à partir du moment où on laisse ces choses-là s'envenimer, puis que ça peut conduire à un épuisement ou à une dépression ou quoi que ce soit, ben le premier facteur que les médecins vont faire, c'est un arrêt maladie, donc retrait du milieu de travail pour un temps de pause.
Ouais.
Malheureusement, on ne peut pas se retirer de nos responsabilités familiales.
C'est plus difficile.
Donc c'est sûr que c'est le travail qui écope.
Les entreprises qui sont capables de subventionner en tout ou en partie vos activités, c'est probablement des entreprises assez grandes pour offrir déjà, via les assurances, des services similaires. C'est quoi la compatibilité entre ce qui existe déjà versus l'offre du BEC?
Une assurance a toujours ses limites. En moyenne, pour avoir... À chaque fois que je vais faire... Moi, je me promène dans toutes les agences du Québec pour aller parler des services, faire un peu de prévention, essayer d'inciter les gens justement à dire ben, ça ressemble, c'est plus inclus au Québec aussi, on a plein d'activités, tout ça. Généralement, ce qu'on dit, c'est que les assurances vont couvrir jusqu'à 300 $ de soutien psychologique par année. Dans les plus avantageux, on va dire 500, puis dans de très, très rares cas, on va aller jusqu'à 800. Nous, on considère que pour avoir le temps de rencontrer un professionnel de la santé, d'établir la problématique, de dire comme je suis qui, je viens d'où, je fais quoi, en trois rencontres, on n'a même pas eu le temps de mettre en application une solution quelconque, puis de voir les retombées, puis d'ajuster le fait.
C'est ça.
Et là, c'est terminé, parce que c'est 300 $ qui couvre, puis il couvre 80%
de ce 300 $.
Ça. Fait que, tu sais, fait qu'au final, c'est trois rencontres, c'est pas suffisant. Nous, on considère qu'un suivi psychologique devrait durer en moyenne 10 rencontres, justement pour avoir le temps de mettre en application des pistes de solution, de voir les retombées, d'évaluer, d'ajuster le tir, puis de soutenir cette personne-là moralement, si on veut, là, tout au long de son processus. Ça peut prendre du temps.
Moi, je me rappelle quand... Moi, j'étais pas un early bird. Moi, j'ai attendu vraiment comme la fin, puis je pense que j'étais rendu pas mal plus loin que la fin même. À un moment donné, j'ai plié les genoux, puis j'ai appelé, j'avais un service justement comme ça en agence. Puis effectivement, je pense qu'on s'est rencontrés peut-être deux fois. Juste le fait de m'habituer à consulter ce que j'avais jamais envisagé dans ma vie, je voyais ça très négativement. J'ai vraiment pas eu le temps de rien éclairer. La beauté de la chose, cette personne-là m'a permis de réaliser que effectivement j'avais besoin d'aide. J'étais même plus sûr si c'était ça le problème. Après ça, ça a été de mon propre chef que j'ai consulté un psychologue. Puis ça sortait de ma poche. Puis tu règles rien en deux jours, tu règles rien en deux sessions. Ça prend plusieurs sessions. Ça prend aussi du temps parce qu'au-delà des sessions, il y a une guérison.
Il y a du démarchage personnel à faire. Hein. Ouais. Il y a la mise en application des conseils, mais il y a toute la réflexion qui va autour. Puis ça prend, c'est pas rapide. Là, on sort pas d'une dépression en claquant des doigts. Ou même dans un facteur, tu sais, on parle de dépression, mais même dans une avenue de « OK, j'ai une problématique, je suis pas en dépression, je suis pas en épuisement, mais ça va pas bien, puis pourquoi attendre que je me rende là? » Puis justement, le fait que c'est long, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est on va dire, par exemple, OK, bien, tes assurances couvrent pour trois séances. On va demander aux gens de démontrer aussi leur bonne foi pour l'organisme, puis dire, bien, écoute, on va prendre, dans le fond, tes trois séances, puis on va compenser pour les sept, considérant qu'il y en a 10, comme qu'on juge selon ta situation. Mais quand tu dis 10, parce que c'est une moyenne.
Ouais,
mais j'ai des gens qui, au bout de 4 séances, ont fait genre, ah, OK, c'est beau, ça va bien, comme, j'avais juste besoin de me recadrer, puis là, on est parti pour la gloire. Comme il y en a, ça prend 12, 15, 22, tu sais, comme, pour avoir fait une dépression, puis tout ça. C'est moi, en tant que quand j'étais en arrêt maladie, 10, ça n'aurait pas été suffisant à ma vie. Par contre, c'était ans pour que je prenne, que je reprenne le contrôle sur mes actions. C'est justement, le clown est triste, là, c'est un peu ça notre milieu. On se base énormément sur les apparences, puis il ne faut pas laisser passer nos faiblesses, parce que justement, si on le démontre, automatiquement, ça vient, c'est une épine dans le pied, puis ça va nous suivre longtemps. J'en ai vu des stagiaires, moi, se donner corps et âme des 80 heures semaine. Puis des fois, je disais, wow, mets la pédale douce. Comme, c'est fun que tu veux tout donner, puis t'es super impliqué, puis t'es super créatif. Mais c'est parce que le problème, c'est que si t'imposes ce rythme-là, on va attendre de toi ce rythme-là, puis tu pourras pas tenir le rythme pendant des années.
C'est ça, t'as de l'énergie quand tu commences, mais...
Il y a personne qui peut travailler, pour l'avoir fait, là, il y a personne qui peut travailler 100 heures par semaine sans se brûler.
Non, c'est sûr, been there, done that. Toi, Valérie, avec cette expérience que tu as via ton travail au PEC, via le fait que t'as déjà été en agence, puis t'as déjà souffert d'une dépression, ça serait quoi les conseils à donner à des gens qui sont peut-être en train de se questionner à ce sujet?
En parler à sa famille, première étape, avoir du soutien de ses proches. Pour y avoir été, je suis tellement consciente que la première fois, là, aller chercher de l'aide, c'est tellement une grosse étape. C'est tough. Je le marquerais comme aller chercher de l'aide professionnelle, mais je le sais que c'est pas ça qu'ils vont faire. parce que c'est difficile de s'informer. J'ai l'impression, en deuxième, de s'informer. Internet est rendu une ressource tellement anonyme et facile d'accès.
Ouais.
Aller voir c'est quoi les symptômes, c'est quoi les pistes, qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà là, ça peut peut-être être un préambule à appeler pour aller chercher une aide professionnelle. Puis, honnêtement, ça c'est quelque chose qui me dérange pas de le dire. Moi, j'ai été diagnostiquée avec une dépression majeure il y a plus d'un an et demi et par un médecin de famille. Et pour avoir rencontré un psychiatre il y a deux semaines à peine, elle m'a dit que c'était pas en dépression. C'était pas du tout ça, mais les médecins de famille savent juste pas comment aborder les problématiques en santé mentale. Elle m'a dit littéralement, là, la majorité des médecins que je connais, ils voient quelqu'un rentrer dans leur bureau, ils leur donnent des antidépresseurs, c'est en dépression, puis bonne chance dans la vie.
Ouais.
Fait que moi, j'ai pris des médicaments, je me suis injecté du chimique dans le corps pendant plus d'un an et demi pour aucune raison parce que j'ai un trouble d'anxiété. Puis ça, ben c'est pas diagnostiqué par un médecin de famille parce qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la recherche et tout ça. Puis malheureusement, ça m'a beaucoup fait rire de la part de la psychiatre. Elle m'a dit, mais t'aurais dû venir voir un psychiatre avant.
C'est le médecin qui décide, fait que si lui il est sûr qu'il connaît sa patente, ça fait en sorte que...
Ben oui et non, parce que moi j'ai quand même, tu sais, j'ai un super bon médecin de famille qui m'a suivi lors de ma première dépression. Fait que j'ai totalement confiance, mais même elle m'a dit, écoute, je suis pas psychiatre. Je fais au mieux de ma connaissance, ouais. Mais elle m'a donné une prescription pour voir un psychiatre. Mais il y a un an et demi d'attente qu'on appelle au CLS pour rencontrer un psychiatre.
Oui, c'est ça.
Mais vraiment, si on y va en trois étapes, s'entourer de sa famille, ses amis, faire des recherches, s'informer sur le sujet, puis aller chercher de l'aide professionnelle. Parce que même si au pays, justement, c'est pas ça, c'est sain de parler à quelqu'un d'externe qui connaît pas l'entourage, qui est juste capable de faire une analyse selon ce qui lui est véhiculé. Ça, c'est excessivement sain, parce qu'il faut se dire que tous nos amis ont leur bagage, toute notre famille ont leur bagage, ils ont leurs craintes, ils ont leurs jugements, ils ont... Puis autant que c'est important d'être bien entouré dans la vie, autant d'aller chercher une aide professionnelle externe peut faire voir certaines choses sous un autre angle. Il y avait une question dans ton document sur le fait est-ce qu'on peut guérir d'une dépression? Puis selon moi, non. Mais c'est mon opinion très personnelle. On peut s'en sortir. On peut...
Contrôler.
On peut aller ailleurs. Moi, j'ai fait une dépression majeure en 2010 et je ne suis jamais revenue la personne que j'étais avant cette dépression-là. Il y a quelque chose qui a changé. Puis jamais je vais retrouver la personne que j'étais avant. Il va toujours rester quelque chose. Et la preuve aussi, c'est la raison pourquoi les médecins sont super rapides à gâchette, c'est que le fait d'en avoir fait une, c'est comme si tu crées une faiblesse dans ton système. Donc, tu es vulnérable à en faire d'autres, malheureusement.
Oui, absolument.
Beauté, c'est que le jour où tu en as fait une, ben, tu es capable d'évaluer les signes de « Oh, me semble que je suis sur une mauvaise voie, me semble que je suis en train de déraper. » Ça me fait étrangement penser à la première fois. Donc, on est capable d'évaluer, de prévenir. Puis ça, c'est une grande force à ce niveau-là, d'être capable de dire « OK, je vais essayer de limiter les dommages avant de toucher le fond. » Parce que personne, honnêtement, je souhaite pas à mon pire ennemi de se ramasser au fond du baril. C'est vraiment épouvantable. Donc, je pense pas qu'on peut guérir complètement d'une dépression parce qu'il va toujours rester un très, très faible pourcentage, mais qui est là, une faille qui fermera jamais. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Je dis pas ça au nom du bec.
Je
serais ex-dépressive.
Oui, c'est ça. Je me fais cette image-là, moi aussi. Je me dis, c'est un peu comme... quelqu'un qui a fait une crise de cœur, il est potentiellement plus fragile de ce côté-là. Quelqu'un qui s'est brisé une jambe... ça a beau être réparé, s'il reçoit un autre choc, il peut se la rebriser encore.
C'est ça. Je peux le comparer à ça. La nuance, c'est que c'est dans la tête qu'il n'y a personne qui le voit. C'est excessivement difficile. Puis moi, j'ai toujours dit, si vous trouvez un bon médecin, vous expliquer en faisant des beaux petits schémas et des croquis, vous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe dans votre tête parce que c'est tellement flou. Puis justement, la stigmatisation est étroitement liée à ce flou-là. Je comprends pas. j'arrive pas à me faire une idée de comment, pourquoi elle, pourquoi là, pourquoi. Tu sais, faut comprendre qu'au-delà de l'émotif, au-delà du psychique, il y a le physique qui embarque. Une dépression, c'est pas uniquement psychologique. Donc, ça fait partie des tabous à
estomper.
Ah oui. Mais mon Dieu, qu'on n'est pas rendu là encore. Chaque chose en son temps.
Tu disais tantôt que il y a eu une Valérie, puis il y a une nouvelle Valérie. Elle n'est plus la même. Est-ce que tu crois toutefois que cette nouvelle Valérie-là, ça se dit mal, a grandi?
Oui, elle a grandi. Mais elle s'ennuie en maudit de celle d'avant, par contre.
Ah oui?
Il y a un facteur, je sais pas comment le dire, c'est tellement bizarre. Tu sais, oui, c'est sûr que j'ai grandi dans ce processus-là. Mieux que ça, les gens autour de moi ont aussi grandi là-dedans. Avec l'acceptation, avec le soutien, avec la compréhension de ce qui se passait. Fait que oui, j'ai grandi avec ça parce que je sais reconnaître les signes et tout ça. Mais il y a une petite joie de vivre qui est morte. Que c'est la quête quotidienne de retrouver cette petite flamme-là. C'est comme si, je vais pas imaginer, là, mais j'ai 10 bougies dans ma tête, puis il était tout allumé. Puis quand je suis en dépression, on a soufflé dessus, puis il était tout éteint. Puis là, il y en a peut-être 8 sur 10 qui sont rallumés. Puis c'est la lutte pour allumer les deux dernières, mais la mèche est trop courte, puis le feu ne pourra jamais.
En même temps, les 8 qui restent allumés avec ce que tu fais, ça fait en sorte que tu en allumes pas mal d'autres, même si ça
met. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la beauté. Puis pour moi, travailler au bec, c'est un cadeau du ciel parce que.
Ah oui, hein?
Parce que justement, je pense être très bien placée pour comprendre les gens qui m'appellent. Puis que. Ça, comme je dis, la ligne d'aide, c'est un numéro invitant, c'est pas moi qui réponds. Mais quand on tape bec sur Google, le premier numéro qui apparaît, c'est le numéro où tu viens de m'appeler. Parce que c'est la ligne administrative. Puis des appels le samedi après-midi à 4 heures, si quelqu'un en larmes, j'en reçois.
Ah oui.
Puis c'est sûr que je suis pas intervenante, puis je suis pas psychologue, puis je peux rien faire pour les aider dans une démarche future. Par contre, je suis là dans le moment pour les écouter, les appuyer, puis éventuellement les référer à notre ligne d'aide pour qu'ils puissent être pris en charge de façon professionnelle. Okay. Entre cette petite fenêtre-là, là, où c'est moi qui interviens, je pense que mon parcours fait en sorte que j'ai peut-être plus de compassion, j'ai plus d'ouverture d'esprit à réconforter et à leur donner aussi la force d'aller chercher, d'aller plus loin. T'sais. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant dans la vie qu'aider les gens.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet dans Le Grenier Magazine, téléchargez l'application iPad sur la App Store. Et si ça vous tente, poursuivons la conversation sur Twitter en utilisant le hashtag GrenierMag et mon identifiant Twitter, Pizza4All. À la prochaine!